Avant de retrouver notre cher Roberto Guevara, juste pour vous dire qu'il est 7h36 minutes et que vous êtes toujours sur sa qualité 90.3 FM. Salut Roberto.
Salut, salut Pauline, ça va?
Ça va très bien et toi?
Ouais, ça va, en forme.
Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui?
En fait, ce que je vous présente ce matin, c'est un petit reportage que j'ai fait dans le cadre de, je sais pas si vous saviez, mais en fait 2015, c'est l'année internationale des sols.
Je l'ignorais complètement.
Ouais, donc t'inquiète, moi aussi je le savais pas jusqu'à temps qu'on me propose justement de travailler là-dessus. Et donc c'est une série de reportages qui viennent de radios communautaires à travers le monde. Et donc il y a le site, on pourra le partager sur la page Facebook pour voir toute la série. Mais autrement dit, c'est fait par la marque, justement l'Association mondiale des radios communautaires. Et donc une série, il y a reportages de Madagascar, d'un peu partout, d'Amérique latine, d'Afrique. Et donc, moi, j'ai eu la chance, justement, d'en faire un de plus pour la série. Et je me suis concentré, donc c'est sur les sols, je me suis concentré sur les effets de la fameuse révolution verte, qui est une révolution agricole qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tous ces effets que ça a eu sur l'agriculture moderne et ainsi de suite.
On lance ça de suite.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, estime qu'il y a près de 250 000 variétés végétales cultivables sur la planète, mais que seulement 3% de ces variétés sont exploitées. L'agriculture moderne a en effet choisi de se concentrer sur une douzaine de variétés conçues pour des cultures intensives. Le riz est le grain le plus important, avec 90% de la production mondiale faite et consommée en Asie. Il existe deux principales manières de planter du riz. En semant les graines à la volée directement en plein champ ou en transplantant des plantons depuis une pépinière dans la rizière. Dans les deux cas, on inonde la rizière pour faciliter la pousse et éviter le développement des mauvaises herbes. Du Pakistan jusqu'au Japon, il y aurait plus de 150 millions de rizières. Allant de petites plantations familiales jusqu'à des plantations industrielles, la riziculture emploie plus de 2 milliards de personnes, soit un individu sur trois.
Avec du riz, on peut faire du bibimbap, du chitrana et du riz jollof, entre autres.
Arroz con frijoles casamiento, arroz con pollo, arroz en leche, arroz con gandules.
La moitié de la population mondiale va chercher près de 40% de leurs calories quotidiennes dans le riz à travers mille et une façons. Pour les gens vivant sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,25$ par jour, le riz compte pour la moitié de leurs dépenses alimentaires. Il est estimé que pour chaque milliard de personnes de plus sur la Terre, il faut 100 millions de tonnes de riz de plus par année. Avec autant de demandes et de personnes, il est pertinent de se demander si les sols sont en condition de produire autant et si les techniques actuelles sont les meilleures. Avant d'avoir des réponses, faisons un peu d'histoire et remontons jusqu'aux années 60 lorsque la Révolution verte a débuté. La Révolution verte est la période où commencent les modifications scientifiques sur les grains et où les cultures du blé et du riz notamment se sont intensifiées. C'est aussi à ce moment qu'a lieu la généralisation de l'utilisation des engrais minéraux et des pesticides. Il fallait produire et récolter plus sur les mêmes espaces agricoles. Allant du Mexique jusqu'en Inde et en passant par l'Afrique du Sud, la Révolution verte a été une étape décisive dans la constitution du marché agronomique mondial. Entre 1960 et 1990, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines, par exemple, ont vu leur production agricole et leur économie progresser au point de presque devenir autosuffisants. Il est clair que la Révolution verte a atteint une partie de ses objectifs sur la sécurité alimentaire, puisqu'il a eu pour conséquence un accroissement spectaculaire de la productivité agricole et de la population mondiale. À la fin des années 1970, par exemple, le rendement du riz avait augmenté de 30% en Inde. Cette augmentation a permis à l'Inde de faire face à la croissance de sa population sans subir les famines qu'elle avait connues durant les années 60. Mais à partir des années 90, la révolution verte a commencé à être mise en question.
Il y a tout un ensemble, c'est toute une chaîne, ce qu'on appelle un itinéraire technique de l'agriculture intensive, ce qu'on a appelé la révolution verte, qui est une vraie catastrophe pour les sols, qui a donc amené des machines lourdes, labouré profond, mis des engrais chimiques et mis des pesticides, et cet ensemble qui a complètement détruit la biodiversité des sols.
L'agronome Claude Bourguignon est de ceux qui remettent en cause la révolution verte, parce qu'elle a aussi amené une pollution généralisée par les pesticides, une perte massive de biodiversité, la salinisation, voire même la perte de nappes phréatiques et le phénomène de dégradation et d'érosion des sols. Avec sa femme Lydia Bourguignon, ils sont fondateurs du LAMS, le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, à travers lequel ils enseignent aux agriculteurs à remettre leur sol debout en restaurant la biodiversité. Ils font la promotion d'une agriculture en harmonie avec les sols, ce que la révolution verte n'a pas fait selon eux, et ce que l'agriculture moderne ne fait pas non plus.
La fertilisation, l'azote, le phosphore et le potassium, le NPK que tout le monde connaît, en fait, quand les agriculteurs ont commencé à le mettre, effectivement, ça a boosté, ça a augmenté les rendements de façon assez spectaculaire, parce que les sols avaient de la matière organique. Ils avaient beaucoup de matière organique. Donc, effectivement, ça a permis de minéraliser, de brûler la matière organique pour les plantes. Donc, il y a eu un effet
dopage.
Mais comme ça l'a minéralisé, ça l'a fait perdre rapidement, moins de matière organique, donc moins de faune. Et petit à petit, là, ils ont été contraints à rajouter sans arrêt des fertilisants parce qu'ils n'avaient plus de matière organique. Donc, en fait, au début, on les a leurrés. En fait, on leur a menti, quelque part. Parce que les fertilisants ont entraîné cette chute de la matière organique.
De manière simple, un sol fertile et en santé est un sol qui peut respirer. Et c'est la biodiversité qui assure ce processus. Par biodiversité, on entend animaux, insectes, plantes. Dans les champs de riz, vu que les champs sont inondés, la biodiversité se compose aussi de poissons et de mollusques. Peu importe le milieu, ce qui arrive en fait est que les pesticides et autres produits chimiques s'attaquent à la matière organique, qui est en fait la nourriture de la biodiversité. Et donc sans nourriture, la biodiversité meurt, et par la suite, le sol meurt aussi.
Quand le sol s'effondre, comme il est à la base de la pyramide alimentaire, c'est tous les oiseaux qui tombent, c'est tous les animaux qui vivaient de ça qui s'effondrent.
Alors l'intérêt de cette faune, ça va être d'aérer les sols, de faire des galeries, d'aérer les sols. Et grâce à cette aération, en fait, le sol va être oxygéné. On aura aussi, à ce moment-là, on a des microbes. Et ces microbes vont permettre d'assimiler les éléments du sol à la plante et permettre de nourrir la plante. Donc quand on n'a plus de faune, l'agriculteur va être obligé d'utiliser de plus en plus de produits de fertilisation. C'est le cercle infernal parce qu'en fait, cette fertilisation va détruire, va brûler la matière organique, va la consommer, va la détruire. Et en fait, cette faune a besoin de cette matière organique, donc on la fait mourir et c'est un cercle infernal pour l'agriculteur.
Et maintenant, ils ont une stagnation, voire même baisse des rendements. C'est-à-dire que les rendements n'augmentent plus et parfois même, dans pas mal de zones, ils baissent. C'est-à-dire à l'heure actuelle, sur la planète, il y a une baisse de la production de céréales mondialement due à la mort des sols. Malgré une multiplication par 10 de la quantité d'engrais depuis 1950, maintenant les rendements ils stagnent. Alors que la génétique continue à donner aux agriculteurs des plantes qui normalement devraient continuer à augmenter leur rendement, mais on ne l'observe plus du fait de la mort des sols, qui est devenu le facteur limitant de l'agriculture.
On demande aux agriculteurs d'avoir une évolution, évoluer vers quelque chose de positif et pas... Et travailler avec le sol. Mais le sol, quand vous travaillez avec cette biodiversité et cette faune et ces microbes, c'est gratuit. Et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses.
La pratique actuellement répandue dans les rizières est celle qui consiste à inonder les champs pour assurer de bons rendements. Mais le problème demeure que, avec les pesticides et autres produits chimiques, l'eau aussi risque d'être contaminée et au final de nuire au sol. Il est vrai que les rizières diffèrent dans leur façon de gérer l'eau, dans la profondeur, l'altitude et autres. Mais selon le International Water Management Institute, 25% des plaines rizicoles irriguées de la planète subiront une pénurie d'eau avant 2050. C'est face à ce défi que la méthode SRI, système de riziculture intensive, a été découverte et développée au Madagascar à la fin des années 80. La méthode SRI a la particularité de ne pas utiliser justement l'eau à profusion.
On gère l'eau. On ne va pas dire qu'on n'a pas besoin d'eau, mais on gère l'eau, c'est-à-dire progressivement, on met des lamelles d'eau dans le but donc de satisfaire le besoin de l'eau exacte du riz. Mais pas à la façon humaine de penser que oh, le riz a besoin d'eau, non. Le riz n'est pas une plante aquatique. Elle ne boit pas de l'eau. Mais ça veut dire qu'elle a quand même besoin d'humidité et humidité... suffisante. Le résultat, c'est que, en gros, on utilise 100 fois moins d'eau en essairie par rapport à l'ancien système.
Edmond est agriculteur au Madagascar. Il nous explique ici le fonctionnement de la méthode essairie, où le riz est replanté par brin dans un sol asséché. Contrairement à la méthode traditionnelle, la pousse est encore très jeune lorsqu'elle est replantée et on laisse le riz pousser sans inonder le champ. De plus, cette méthode est respectueuse de l'environnement puisqu'aucun pesticide ou autre produit chimique ne vont dans les sols, permettant ainsi au sol de pouvoir abriter et de nourrir la biodiversité et au final de pouvoir respirer.
On retourne et on arrose. Ce qui assure la décomposition des matières végétales là-dedans pour avoir du bon compost, c'est du micro-organisme décompositeur, des organismes aérobies, c'est-à-dire qui a besoin d'air pour pouvoir proliférer davantage, que ça pilule. Alors, voilà le cheminée. Donc ça assure l'aération du tas.
Nous ne sommes peut-être pas à la veille de voir la pratique actuelle s'arrêter. Et qui sait si une meilleure technique fera un jour son apparition ou bien si la méthode SRI va conquérir davantage de terres. Mais avec la question de la préservation des sols et de l'eau qui devient de plus en plus importante, les agriculteurs devront tôt ou tard se poser la question de comment ils peuvent continuer à nourrir la planète tout en préservant la santé des sols. Ce segment fait partie d'une série radiophonique produite dans le cadre de l'Année internationale des sols. Il a bénéficié du soutien de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui célèbre son 70e anniversaire en 2015.
C'était donc un reportage de Roberto Guevara. Est-ce que tu peux nous finir nous en parler, Roberto?
Ouais, il y a tellement d'affaires que j'aurais voulu inclure dans le reportage, mais bon, on est un peu limité dans le temps et évidemment, le sujet est tellement vaste et tellement intéressant. Mais oui, ben, d'un côté personnel, j'ai tellement appris sur l'agriculture, la manière qu'on cultive les aliments, surtout ben, justement les grains, le blé, les céréales et le maïs. Donc sincèrement, c'est à voir et d'où le fait que je vous parlais de la série radiophonique disponible sur le site de la marque, qui justement va dans différentes directions et donc où on apprend beaucoup, beaucoup, et d'où l'importance justement de respecter les sols.